France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Quand Adèle Van Rett m'a demandé de lire, je me suis dit, mais je sais pas, vous me proposez un drôle de truc, parce que moi, j'aime plutôt, non pas les dépressifs, mais j'aime pas les super positifs. Alors, heureusement, je travaillais Hugo à ce moment-là, donc je me suis dit, au milieu des Cioran, des Baudelaire, des Nietzsche, même des Céline, je mettrai quelques textes d'Hugo, qui est quand même, et de Flaubert. Enfin, Flaubert, ça retombe dans le pessimisme. Et je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, elle m'a convaincu, donc je vais commencer d'abord par ce qui est chez moi une source d'admiration profonde, c'est-à-dire les portraitistes. Les portraitistes, c'est une extraordinaire aptitude, en quelque sorte, à capter dans la nature humaine, derrière le moi proposé, derrière le moi social, derrière la représentation, l'individu. Le génie de l'observation d'un grand écrivain, c'est de capter ce qui est le trognon, quoi, pour citer Céline. Je m'intéresse peu aux hommes, écrit Céline, à leur opinion. Moi, c'est leur trognon qui m'intéresse, pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils sont. La chose, l'homme en soi, presque toujours le contraire de ce qu'il raconte, c'est là que je trouve ma musique. Dans les êtres, mais malgré eux, puis pas dans l'angle qu'ils me présentent. Je les viole en toute gentillesse, mais sans pitié. J'avais fait un spectacle avant le Covid qui s'appelait Croquis de mémoire de Jean Co. Jean Co est né à Carcassonne, à côté de Carcassonne, de parents communistes, lui étant très à gauche, dans une famille très pauvre. Je crois que sa mère était femme de ménage, que le père était ouvrier. Ils étaient très impliqués dans une gauche militante. Et puis, il est monté après la guerre à Paris. Il a eu le talent de devenir le secrétaire de Jean-Paul Sartre pendant presque 10 ans. Sartre cherchait quelqu'un et Sartre a été séduit par ce personnage étrange et il est devenu son secrétaire. Et c'est à la guerre d'Algérie qu'il a complètement renversé sa perception et que dans notre tête, Jean Co, c'est le pote à Louis Powells, Figaro Magazine, Paris Match, ami d'Alain Delon. Et Jean Co, il s'est mis à une sorte de rejet de la gauche qu'on appelle bien pensante. Il en sortait et il est devenu anti-moderne. Mais moi, ça ne m'intéresse pas tellement tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour moi un des plus grands portraitistes du XXe siècle. Par le fait d'être secrétaire de Sartre, il a eu accès à un nombre de personnalités littéraires absolument énormes et politiques. Il a très bien connu Pompidou, il a très bien connu Mitterrand, il a très bien connu, alors après, Lacan, Camus, Jean Cocteau, Jean Genet, Boris Vian. Mais il y a un personnage qu'il croque de manière extraordinaire, c'est Gaston Gallimard.
Je vous demanderai, Gaston Gallimard, quelles ont été les premières réalisations en rapport avec la profession que vous aviez choisie, ou plutôt qui vous avait choisie ?
Je n'ai pas choisi de profession. Mon père m'avait vaguement conseillé d'entrer aux eaux et forêts. Mais bien qu'aimant la campagne, le plein air, je n'ai pas hésité une seconde à choisir de ne rien faire. Je n'ai jamais songé à devenir éditeur.
Oui, mais il y a eu un engrenage.
La perspective d'exercer un métier me paraissait de plus en plus incompatible avec mon goût du hasard et de la liberté.
Alors ce sont les faits qui vous ont imposé une décision apparente.
Le hasard. Pour moi, l'éditeur est celui qui aime publier des livres qui ne se vendent pas.
Gaston Gallimard, c'est l'éditeur, on peut dire, emblématique de l'édition. C'est l'homme qui a édité Proust, qui a édité Céline, Malraux, Jean Genet, enfin, qui est l'homme de la collection blanche. Et Gaston Gallimard avait acheté la NRF, qui est une revue qui avait été créée par Schlumberger et André Gide. Et Gallimard est un personnage complètement mythique. Gaston Gallimard, qui... Il y a une correspondance entre Céline et Gallimard qui est extraordinaire, que Céline insulte tout le temps. Il y a sa relation avec Proust, etc. Mais voilà comment Janco fait le portrait de Gallimard, qui est mort à 94 ans, dans les années 70, et qui a été au bureau de la rue Sébastien-Botin jusqu'à 92 ou 93 ans. Un nœud papillon, une tête rose et bleue de bon meunier. Pourquoi meunier ? J'en sais rien, à cause des très fines pellicules qui brillaient sur le col de la veste du costume, toujours sombre. Je l'imaginais avec des sabots, une ample blouse, regardant calmement ses meules tourner. Un riche meunier, cependant. On lui apportait le grain. Il devenait bon pain sous la croûte blanche de la couverture, galette de livres grâce à maître Gaston. J'ai toujours connu Gaston, le même et éternel. Quand j'allais dans les éditions Gallimard et que je disais que j'avais rendez-vous avec lui dans son bureau, les gens à l'accueil me disaient « Tu vas voir Gaston. Tu vas voir Gaston, il est très fatigué. » J'entrais dans le vaste bureau, je le trouvais comme d'habitude, à la fois prodigieusement endormi et éveillé. Voix toujours douce, bon sourire, éternel Gaston. J'ai vu dans les couloirs et les bureaux de l'auguste NRF vieillir les troupes et la garde rapprochée du patriarche. Oh, je me rappelle, j'ai vu Jean Paulhan, grande chouette aux gros yeux toujours écarquillés. J'ai vu Brice Parrain, dont on disait quand on le croisait dans les couloirs, il connaît le russe, Brice Parrain, il connaît le russe. J'ai croisé Jacques Lemarchand, que la fréquentation des théâtres et la lecture de quintaux de manuscrits avaient rendu littérairement stérile. J'ai vu Raymond Queneau dans son trou à livres, Albert Camus dans Quelque empire, mais le maître du moulin, le roi de la farine, le grand peseur de blé, c'était au sommet Gaston. Gaston le finot, le bonasse, le rusé, Gaston le fondateur, à qui le Seigneur avait dit « Gaston, tu es Gaston et sur cette pierre je bâtirai la NRF ». La première question que je posais à Gaston, c'était « Est-ce que vous lisez, Gaston ?»« Oh oui, oui, je lis. Non, mais vous lisez beaucoup, j'ai beaucoup lu, vous savez. Nous parlions d'un tel, je me permettais de dire que ces livres ne se vendent pas. C'est normal, me répondait Gaston. Vous savez, ils sont très bons. Alors, ce qui est bon peut se vendre. Ce qui est très bon, là, c'est vraiment très difficile. Par exemple, moi, j'aime beaucoup Michaud, Henri Michaud. Mais qui le lit ? Et Jean Genet ? Non, mais entre ce qu'il me coûte et ce que je vends, il n'y a pas de rapport. Il était profondément blasé. Il en avait tant vu passer dans ses bureaux des talents, des gloires et des glorieux, des génies et des cinglés. Céline, disait Gaston, ah, Céline, c'est quelqu'un, ah, bah oui. Et puis c'est un personnage. Il entrait, il m'injuriait et il gueulait, voilà. Il met trop de points de suspension dans ce qu'il fait maintenant. Le très grand âge venu, Gaston avait certains jours des somnolences d'attention. Encore qu'on ne sût jamais exactement avec lui, comme avec certains vieillards madrés, si elles étaient feintes ou s'il se détachait par vraie fatigue. Un jour il était bien, un autre jour il était là et de présence vague. À la fin de sa vie, il trônait, souvent solitaire, dans son bureau, trop vaste soudain. Mais alors, ce jour-là, le jour où je lui ai rendu visite, ses 92 ans sont en belle forme. Dans le bureau, à travers les baies qui donnent sur le jardin, le jour d'automne le cède à la nuit qui descend, et le vieil homme, amical, me dit qu'il est heureux de bavarder avec moi. Alors j'en profite, je lui dis Gaston, vous êtes emblématique, vous êtes l'éditeur, vous avez connu Proust, vous avez connu Céline, Malraux, Jean Genet, Jean Giono, vous connaissez tous les plus grands écrivains. Pourquoi n'avez-vous pas écrit vos mémoires ? Parce que je ne veux pas ruiner ma maison en disant tout ce que j'ai vu et tout ce que je sais. Et puis, vous savez, et là, il avait un geste très doux. Et puis, vous savez, bof. Alors, de Malraux, alors là, Malraux, il me dit, c'est un cabot. C'est de notoriété secrète et publique, Gaston déteste Malraux. Un cabot et un esbroufeur. Il arrive que ça réussisse, vous voyez. Aragon, alors là, il n'a aucune personnalité, me dit Gaston. Il a toujours suivi quelqu'un, Aragon. Ouais, il a toujours suivi quelqu'un. Il a suivi Drieu-La Rochelle, après Breton, et puis après, et là, il se met à rire, Gaston, et puis après, Staline. Ah oui. Moi, j'aimais beaucoup Drieu-La Rochelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il était généreux. Il n'a écrit aucun livre qui ne soit achevé, mais il était généreux. Il aimait. Malraux, Aragon, il n'aime personne. Proust, ah bah Proust, c'est la grande histoire de ma vie, Janco. Bah, attendez que je me rappelle. La première fois que je l'ai vu, c'était, je crois, à la mer, en Normandie, et en été. J'ai vu s'avancer sur la plage un petit bonhomme qui paraissait avoir endossé une dizaine de manteaux trop longs. Ah, oh, j'étais stupéfait. Il y avait de quoi, je vous assure. Tout le monde le regardait, tant il était étrange. Et j'ai pensé lâchement, j'ai dit, tout le monde va nous regarder et se demander ce que je fais avec ce fou. Vous savez, Janco, dans les 4 dernières années qui ont précédé sa mort, Proust avait 4 amis. Simplement 4 amis. Il avait Léon Daudet, Reynaldo Hahn, son ami musicien, le troisième j'ai oublié, et il y avait moi. Je le voyais au moins 3 nuits par semaine, poursuivait Gaston. J'arrivais vers 1h du matin, il y avait toujours un souper magnifique de servi. Il m'envoyait le mari de Céleste, vous savez, pour me chercher. Alors il était dans son lit, Proust, vêtu d'une sorte de redingote. Alors parfois il se levait pour aller déterrer un livre, une lettre, une épreuve, mais comme il portait un nombre incroyable de chaussettes de laine blanche, eh bien, il semait ses chaussettes qui lui glissaient des pieds dans toute la chambre. Comment ? S'il mangeait lui-même au cours de nos soupers nocturnes. Mais enfin, Janco, de quoi vous parlez, enfin ? Mais enfin, le Proust picorant est une légende. Il attrapait une cuisse de poulet et crac, et puis une autre, et puis crac. Puis alors là, on voit Gaston mimer. Il avait des dents magnifiques, vous savez, blanches, magnifiques. Et puis il buvait du vin, de la bière, du champagne, sans se soucier des mélanges. En vérité, il avait une santé fantastique qu'il a donnée, oui, qu'il a donnée à son œuvre. Jamais je ne l'ai vu en proie à une crise d'asthme. Oui, il était gentil, Proust. Il était rieur, très critique, connaissait son charme. Il n'était pas dupe de ses grâces. Gaston Gallimard, qui me parle de Proust, dans le vaste bureau où ni lui ni moi n'avions pensé à allumer la lampe, et le soir d'automne, presque une nuit maintenant, on grisaille la pièce, dévore nos silhouettes, celle du fils dévot qui écoute et celle du père patriarche qui parle à voix basse, mais qui se rappelle sa voix basse, mais vive de ce souvenir. Oui. Et quand il s'en est allé, Gaston, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, vous savez, sur son lit de mort, il avait une barbe qui avait poussé au cours des 4 ou 5 derniers jours de souffrance. Les cheveux noirs, abondants et de profil, sa bouche était légèrement entrouverte sur le filet des dents éclatantes. Jacques Rivière et moi avons demandé à Dunoyer de ses Gonzagues de venir pour fixer les traits de Proust sur son lit de mort. La famille n'était pas très contente, elle a protesté, mais elle a été très heureuse ensuite d'avoir ce portrait. Mais vous savez, Janco, déjà dans les premiers cahiers que Proust me déposa rue Saint-Lazare, vous imaginez, il y a très longtemps, rue Saint-Lazare où j'habitais, il était question du temps retrouvé. Oui, c'est Schlumberger qui a lu ces cahiers, puis c'est lui. C'est lui ensuite, rue Madame, qui nous en a parlé. Il y avait là Gide, il y avait Guéon et moi-même. Et je me rappelle très bien, Gide a demandé à Schlumberger « Est-ce que tu l'as lu, Proust ?» Et Schlumberger, je m'en souviens particulièrement parce que ça m'a frappé. Schlumberger a répondu « C'est plein de duchesses, c'est dédié à Calmette, le patron du Figaro. En tout cas, c'est pas pour nous. Quant à Gide Jeancot, il l'avait pas lu. Et c'est pas lui qui a ironisé sur les duchesses. C'est Schlumberger. Et vous, Gaston, lorsque vous l'avez lu, oh, je vais vous dire la vérité, je me suis dit, je me perds, mais c'est peut-être dans un chef-d'œuvre. Je suis resté longtemps près de Gaston ce soir-là. Le temple avait dû se vider de ses prêtres. Personne ne nous avait dérangés. Au fond, tout le monde devait être très content que je sois venu distraire le vieillard. Au moins, pendant qu'il me parlait, il n'avait pas erré, le vieux meunier. L'auguste roi Lear. Il n'avait pas erré dans les bureaux. Quand il mourut, de moi se détacha un bloc de mon jeune âge d'homme, un grand morceau de ma jeunesse ébloui par la littérature, ébloui par ses demi-dieux.
Sur France Inter, Fabrice Luchini et ses admirations littéraires. Aujourd'hui, il nous lit des extraits de « Croquis de mémoire » de Jeancot. Jean Cocteau.
Alors, j'ai connu Marcel Proust lorsqu'il était un inconnu. Proust écrivait dans son lit, ganté, sa barbe et sa frange de mèche noire le faisaient ressembler au Carnot-Mort du musée Grévin, à quelques Capitaine Nemo de Jules Verne. Son œuvre s'accumulait à sa gauche, sur la table de nuit, sous forme d'une pile de cahiers d'écoliers. Ces cahiers d'écoliers, illisibles, il y déchiffrait si mal lui-même sa propre écriture que quand il lisait, cela le jetait dans des fous rires. Il se tordait de rire. Je n'oublierai jamais ses lectures la nuit, coupées, hachées par ce rire dont il se barbouillait la figure avec sa main.
Portrait de Jean Cocteau par Jeancot.
Après avoir connu Lacan, Raymond Queneau, j'ai eu la chance de rencontrer Cocteau, tu comprends, mon chéri. Ce qui est très drôle, mon chéri, la terre était tout entière peuplée de chéris aux ailes greffées à la cire par Cocteau, et tous les interlocuteurs, du jeune homme à l'ami, en passant par la simple connaissance, devenaient des anges. Ah, oh, c'était très agréable. On voltait sous le regard de Cocteau. Et lui-même, chef acrobate de l'escadrille, volait en tête. On décollait, on oubliait la terre sur laquelle on abandonnait ses lourds souliers. Et puis on était à la fois surpris et ravis d'avoir été par l'enchanteur bricoleur attifé d'une paire d'ailes, même si ça rangeait malin pour qu'elles soient toujours un peu moins grandes que les siennes. En effet, s'il adorait qu'on fasse sur la piste du salon ou de la salle à manger des numéros, il aimait que le sien soit le plus applaudi. Tu comprends, mon chéri? Moi, je construis des tables aux autres de les faire tourner, hein? Quoi? Il pointe l'index paratonnerre lorsqu'il dit du mal d'un monde qu'il adore. Et il a un rire qui fuse, aigre, avec un bruit de crécelle. Un rire de tête sec, cassé, cruel, élégant. Oui, oui, parce que tout est élégant dans ce mince marquis osseux qui croise et décroise sans cesse des mains célèbres. La bouche mince au passage pince les mots et le nez tranchant, piqué sur le visage comme un nez de gisant, et la voix qui susurre, zézeille, boule et roule et catapulte les phrases, les mots, les idées, passe du coq à l'âne, de l'âne au coq et de l'ange à l'arlequin. La voix qui, au milieu d'un groupe ou au bout de la table, s'élève soudain mais un ton au-dessus de toutes les autres et installe un silence où elle déploie ses arabesques. Mais tout est élégance dans ce prince de peau et d'os. Tout est politesse. Tu comprends, mon chéri? Et il repointe l'index antenne lorsqu'il s'agit de capter dans une atmosphère des ondes. On l'a comparé à un équilibriste, un jongleur, un funambule, un prestidigitateur. Je dis aussi que c'est une chauve-souris. Ses interlocuteurs sont des murs. À grands coups d'ailes, ils volent et virevoltent à toute vitesse comme ce bizarre et double animal que ses radars empêchent en pleine nuit de se heurter aux murs qui l'entourent. On a vanté sa gentillesse. Moi, je dis qu'il est aussi d'une méchanceté très sûre, qui griffe. Jamais de coups de massue, mais des coups d'épingle trempés dans son curare personnel et qui, dans la seconde, foudroie l'autre. Alors cet autre, certes, il le ranime aussitôt. Que faire alors sinon lui pardonner et redoubler à son égard d'une tendresse que, comme un enfant, il exige sans jamais la demander? À table, où nous étions, une dizaine de convives, nous parlions, je crois, je ne me rappelle plus exactement, de politique, de rien et du général de Gaulle. Jean Cocteau n'écoutait pas. Il était voûté, les coudes largement appuyés sur son fauteuil d'archevêque, et il regardait. Quoi? Rien. Ça a duré 10 secondes peut-être, mais je n'oublierai jamais le regard terrible de cruauté et de désespoir dans ce visage abandonné. Le même regard qu'à Voltaire sur le buste de Houdon. J'ai eu peur de cette statue, mais il s'est aperçu en un éclair que je l'observais et que j'allais peut-être lui dérober un secret. Alors il s'est repris, il s'est redressé et comme la phrase de l'un des convives tombait sur le mot « généraux », il a dit « les généraux sont des particuliers » et tout le monde a ri. Tu comprends, chérie, si les châteaux ne sont pas vrais, s'ils sont fantômes, les fantômes perdent leur pouvoir d'effrayer. C'est ça la poésie, mon chéri, des fantômes qui hantent la vérité. Quoi? Ils sèment sur les sentiers sinueux de sa conversation les cailloux étincelants de ses mots. Tu sais, mon chéri, comme j'ai 70 ans, je suis absolument libre d'être jeune. Angoisse de ne plus l'être. Tu connais le mot de Picasso? Tu le connais, non? On met longtemps à être jeune. Et Greta Garbo me disait « On voudrait que je fasse aujourd'hui ce que j'ai déjà fait pour dire que je ne peux plus le faire. » Bah oui, c'est l'époque tout ça, mon chéri. C'est très compliqué. David, que j'adore, qui a une très belle galerie dans le 8e arrondissement, m'a raconté l'histoire d'une Américaine qui lui a téléphoné de New York. « Vous avez des Picasso ?» demande l'Américaine. « J'en ai 3. Et j'achète le plus cher. Mais ils valent tous le même prix. » Alors je les achète tous les 3. Mais enfin, madame, dit David, vous ne les avez pas vus. Et alors, quand j'achète de la chaîne, est-ce que je vais voir le canal de Suez? C'est ça, mon chéri, tu comprends, c'est l'époque. Il m'a invité au Beau de Provence à assister au tournage du Testament d'Orphée. Une petite fille dans le film le traite de violoniste. Elle doit dire « Jean Cocteau joue sur un violon d'Ingres ». Mais elle hésite, la petite fille, elle a oublié. Jean Cocteau joue sur un violon. Alors il lui souffle et elle s'écrie radieuse sur un violon dingue. Un jour, me raconte Cocteau, nous étions à Montmartre avec Salomon, Apollinaire, Sandrart, Picasso, une vingtaine d'autres. Nous nous sommes mis à descendre la rue Lepic en hurlant et en brandissant des pancartes. Mais les gens étaient très effrayés, ils croyaient que nous étions des rouges et que nous faisions la révolution. Des policiers sont arrivés, mais ils ne sont pas intervenus. Nous hurlions à Balaforgue, vive Rimbaud. Et comme aucun ministre ne portait ces noms-là, ils n'ont pas roulé leurs pèlerines et se sont contentés de nous prendre pour des fous inoffensifs. La guêpe bourdonne infatigable. C'était Cocteau. 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 Cacetto, bel oiseau sec au long bec, cabot touche à tout, touche à rien, dessinateur, pastelliste, imitateur, copieur, spécialiste en farces et attrapes avec pile électrique dissimulée dans l'objet, et puis surtout mondain, snob, dandy, homo, roi des royaumes de carton et de celluloïdes, empereur Ludion entouré de gardes musculairement doux, inquiet, nerveusement, à fleur de peau, inquiet de sa gloire, dansante, évitant de faire sur la corde le faux pas, capable d'admirer, de jalouser des Picasso ou des Jean Genet, mais capable parallèlement d'en parler, d'en célébrer leur génie avec chaleur, d'une voix qu'il avait merveilleusement maigre. Pas un gramme de graisse dans les idées, la conversation, la réplique, le goût enlevé du trait. Enchanteur de femmes, ébahisseur de jeunes gens, au couturier de la littérature travaillant à la main, mais aussi dans le prêt-au-poème, architecte roué, expert en trompe-l'œil, c'était Cocteau.
Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde.
Jean Genet.
Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs.
Les admirations littéraires de Fabrice Lucchini.
Alors là, c'est un portrait de Jean Genet, où Jean Genet convoque Baudelaire et se dispute avec Jancot. Entre mille histoires et mille souvenirs, celui-ci. Nous avions déjeuné dans un restaurant moitié chic, moitié con, avec boiserie, velours et serviette pliée en triangle sur l'assiette. Un éphèbe casqué de blond, veste blanche, costaud mais jouant à mesurer ses gestes dans le plus parfait style école hôtelière, vidait les cendriers avec une puissance impassible. Genet, connaisseur, lui jeta un regard, puis oublia cette statue qui de temps en temps venait hanter la table. Nous sortons, repas terminé, nous marchons d'un pas flâneur. Lorsqu'au bout de 100 mètres, Genet stoppe et torture les poches de son pardessus en poil de chameau à triple épaisseur et me regarde en me disant « Merde, on m'a piqué 200 000 balles. J'avais tapé machin, il m'avait refilé 200 000. On m'a piqué 200 000 balles, Jancot. Effroyable, deux blocs pétrifiés sur le boulevard. Vous êtes sûr, poète ? Je l'appelais poète, c'était un tic, oui. Vous les aviez en allant au restaurant, oui. La cervelle sous le crâne, rose et chauve, fonctionne à toute allure. Il a replongé ses lourdes mains aux doigts dont le bout est comme écrasé sous des ongles plats et blancs, des spatules dans les poches inertes. Les petits yeux vrillent méchamment. L'espace, et soudain il me regarde et me dit « Venez, j'en suis sûr ». Nous rebroussons prestement chemin, il freine devant la porte du restaurant, calme affecté, il est pâle, nous entrons. Il se dirige vers Adonis, Mataf, videur de cendrier. « S'il vous plaît, je vous prie, j'ai à vous parler, venez une seconde dans la rue ». Adonis regarde le petit homme et nous suit. Alors sur le trottoir, le grand tutoiement voyou. La voix sèche, le regard accrochant, celui mou de l'éphèbe. Rends-moi le fric, rends-moi le pognon tout de suite, petit con. Adonis, maintenant, a compris que ce petit monsieur chauve n'était pas un notaire de nos provinces. Mais il appartenait à la famille. Eh ben, pas de peau, il est tombé sur un os. Il sort de sa poche sans un mot le paquet de fric, divisé en deux liasses, fixé par des épingles. Genet les lui arrache des mains, fourre une liasse dans sa poche et lui tend l'eau. « Tiens, prends ça !» Le jeune Loufia dévore du regard le poète qui a déjà tourné les talons. Il est sonné, je me permets de dire à Genet, il est complètement sonné, il est capable de nous rattraper pour vous les rendre. S'il le fait, alors cette fois je lui fous mon pied au cul. Mais dites-moi, Genet, comment vous avez su que c'était lui ? J'avais le fric en entrant dans le restaurant, mais pourquoi lui ? Sa belle petite gueule, Jean Genet, menton en rond de galoche, deux petits yeux en querelle de chaque côté du nez cassé, des colères blanches, des douceurs tragiques de regards bleus, des ongles effroyables de vulgarité plébéienne et inquiétante, et cela d'autant qu'ils sont nets, des rires merveilleusement rusés et frais quand il a réussi un coup, piqué du fric en accroc escroc à un éditeur qui verra jamais le livre, à une conne mais au moins elle est brave, ou à n'importe qui. Aussitôt piqué, le fric ruisselle de ses mains pour inonder la tête de quelques garçons, toujours première merveille du monde, qui n'a jamais de nom, ne porte que prénom d'amour et de guerre, et dont le poète intarissable célèbre les charmes, les vertus et répète les mots grandioses. Il avait aussi des colères tremblantes, Genet. Un jour, nous étions dans le marais. Il s'arrête et il me regarde en disant « Comment osez-vous dire que Baudelaire use de Vercheville ?» Bon, le peu que je comprenne de Vercheville, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, crée des vers, non pas par inspiration, mais crée des vers pour aller à la ligne. En tout cas, c'est le sens, manifestement, que Jean Co a osé opposer au talent de Baudelaire. Et là, Genet, ça le rend hystérique. Comment osez-vous dire que Baudelaire use de Vercheville ? La voix tremble. Il s'est enraciné sur le trottoir d'une rue du Marais. Il serait capable de ne plus me revoir de sa vie. Tout à l'heure, il dira « Et tes pieds s'endormaient dans mes bras fraternels. » Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi, tous mes plaisirs, ô toi, tous mes devoirs, tu te rappelleras la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des soirs. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses. Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon et les soirs au balcon voilés de vapeurs roses, que ton sein m'était doux, que ton cœur m'était bon. Nous avons dit souvent d'impérissables choses, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon. Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées, que l'espace est profond, que le cœur est puissant. En me penchant vers toi, reine des adorés, je croyais respirer le parfum de ton sang, que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées. La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison, et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles, et je buvais ton souffle, ô douceur, ô poison, et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles. La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison. Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses, et revis mon passé blotti dans tes genoux, car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses ailleurs quand ton cher corps et quand ton cœur si doux? Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses, ces serments, ces parfums, ces baisers infinis renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes, comme montent au ciel les soleils rajeunis après s'être lavés au fond des mers profondes, aux serments, aux parfums, aux baisers infinis. Manifestement, Genet adorait ce poème. Il était capable de se mettre dans cette colère dont parle Jean Co, Comment osez-vous dire que Baudelaire use de Vercheville ? La voix tremble, il s'est enraciné sur le trottoir d'une rue du Marais. Il serait capable de plus me revoir de sa vie. Tout à l'heure, il dira « et tes pieds s'endormaient dans mes bras fraternels ». Est-ce que vous appelez ça un Vercheville ? Vous l'avez lu au moins, Baudelaire ? Évidemment que je l'ai lu, mais nul saurait s'opposer aux fureurs de Jean Genet.
Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Je tiens à dire que cette émission a été réalisée par Xavier Pestoggia. La programmation musicale a été choisie par Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par une femme qui s'appelle Madame Valérie Lavalard. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres portraits. Bonne soirée sur France Inter.
Retrouvez Fabrice Luchini dans sa lecture de Victor Hugo jusqu'à fin décembre 2024 au Théâtre de l'Atelier et à partir de janvier 2025 au Théâtre de la Porte Saint-Martin.